Alors, comme chaque mois, nous retrouvons maintenant la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour, Jacques Monin.
Vous êtes en quelque sorte la voix des auditeurs de Secrets d'Info. Alors, sur quoi souhaitez-vous nous interpeller ce samedi ?
Eh bien, les auditeurs nous interpellent en effet sur vos enquêtes, mais aussi parfois sur vos méthodes de travail. Et en ce début d'année, il semble intéressant de relayer leurs interrogations. On commence par la question de cet auditeur. Où sont vos soi-disant secrets d'info ? Beaucoup de teasing, avec pas mal de sous-entendus dans le ton employé comme dans les propos. Placer tout cela sous l'égide de prétendues révélations dénote pour moi une tendance à orienter le jugement dans un seul sens. Alors, Jacques Monin, il n'y a pas de secret révélé chaque semaine. Quelle est donc la promesse de votre émission ?
Soi-disant, prétendu, pas très bienveillant tout ça. Alors oui, c'est effectivement une promesse. La promesse, c'est de pouvoir vous proposer une révélation. L'investigation par nature, c'est ça. C'est aller chercher l'information qui est cachée. C'est l'information qu'on ne veut pas vous donner a priori. Ce sont les portes que vous ouvrez alors qu'elles vous sont fermées. Donc oui, c'est une promesse. Et en tout cas, c'est une volonté de notre part d'aller chercher ces révélations qui a priori n'ont pas vocation à être rendu public pour déjouer les stratégies de communication, essayer de voir ce qu'il y a derrière les apparences. Voilà. Après, évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Évidemment que chaque semaine, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer ce qu'on peut appeler aussi un scoop. Simplement, dans Secret d'Info, on ne cherche pas à en faire une culture ou une religion. Le secret de l'info, il réside à la fois dans la révélation, mais il peut résider aussi dans le décryptage ou plutôt la mise en perspective d'un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple tout bête, mais quand on a présenté l'enquête sur les régions, et notamment la région Occitanie, où on a démontré que le budget avait explosé après la fusion par rapport à avant la fusion, les deux budgets réunis. Je pense que beaucoup de gens avaient déjà entendu parler du fait que les sessions plénières se déroulaient au parc des expositions et non pas, par exemple, à Montpellier, dans l'enceinte qui était prévue pour le conseil régional. Je pense que des gens avaient parlé du fait que les syndicalistes aient hérité de voitures de fonction pour pouvoir faire de la route pour se rendre à des réunions qui avaient lieu à mi-chemin entre Narbonne et Toulouse. Je pense que des gens avaient entendu dire qu'effectivement, certains élus passaient des heures dans des trajets. Mais quand vous mettez tout ça bout à bout, et que vous prenez le temps de prendre de la distance et de mettre les morceaux du puzzle en place, ça vous donne une perspective que vous n'avez pas forcément quand vous en parlez comme ça avec des amis ou quand vous entendez des sujets morcelés dans l'actualité. Et rien que ça, c'est aussi une forme de révélation. C'est une autre façon de voir, de découvrir, d'appréhender un sujet. Mais l'idée quand même de base, c'est effectivement de vous faire une promesse. Alors, on ne peut pas toujours tenir les promesses. Ça, c'est la vie qui nous l'apprend. Mais en tout cas, nous, on assume d'essayer de vous promettre chaque semaine de vous révéler des secrets de l'info. Et si ça ne marche pas, eh ben on ne cherchera pas à les racoler, on ne cherchera pas à faire le buzz. Et d'ailleurs, ce serait vous mentir que de vous dire qu'on en propose chaque semaine, parce que ce serait une façon de niveler la hiérarchie de l'information en vous faisant croire ou en faisant mousser des informations qui n'en sont pas.
Je vous livre la suggestion d'une auditrice. Dans vos enquêtes, il serait équitable de laisser un temps de parole à la partie adverse. Cela correspondrait à la crédibilité de votre mission et éviterait toute polémique.
Alors, laisser un temps de parole, on laisse un temps de parole, j'y reviendrai. Je reviens d'abord sur la formulation « éviter toute polémique ». Pourquoi éviter toute polémique ? En quoi la polémique n'est pas de temps en temps salutaire, voire saine ? À partir du moment où une information qui est documentée démontre un certain nombre de faits qui vont contrarier des intérêts, quels qu'ils soient, politiques, économiques, etc., bah forcément, il dérange et il provoque et il suscite la polémique. Donc, par nature, je crois que l'investigation ne doit pas avoir peur de la polémique. En revanche, je crois à l'équité. C'est-à-dire qu'effectivement, il est nécessaire et il est même déontologiquement indispensable que lorsque nous mettons en cause des gens, il est nécessaire qu'on les informe des informations qu'on a découvertes, qu'on leur propose d'y répondre. Et on le fait systématiquement. C'est-à-dire que, un, personne n'est jamais pris en traître dans Secret d'Info. Toutes les personnes qui sont mises en cause sont informées avant diffusion de ce que nous allons diffuser, des éléments que nous avons trouvés, et nous leur proposons de réagir soit au micro, soit par écrit. Alors après, certaines personnes utilisent ce droit-là, d'autres préfèrent ne pas le faire, libre à eux. En tout cas, on a toujours intégré dans l'émission, et nos auditeurs le savent, la version des personnes qui étaient mises en cause. Alors, on dira, oui, mais parfois, c'est 50 secondes rapportées à 18 minutes d'émission. Ben, on en revient à ce principe d'égalité. Lorsque une enquête menée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois démontre des faits documenté, on ne va pas non plus sous prétexte d'égalité permettre, je vais prendre un exemple, tiens, Medtronic dont on a parlé récemment, cette multinationale de la santé. À partir du moment où on a découvert qu'il y a véritablement une machine d'influence derrière Medtronic et qu'on le documente, est-ce qu'on va passer la moitié de l'émission à donner la parole à Medtronic pour nous expliquer que ce qu'ils font est formidable? Est-ce que ça aurait du sens journalistiquement parlant? Ben, je ne le pense pas.
Des auditeurs se demandent comment vous trouvez vos sujets et si vous répondez à des commandes.
Ah, je dirais qu'il y a trois moyens qui nous permettent de déterminer les sujets sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est ce qui s'appelle l'actualité. Vous mettez la télévision, regardez le 20h, vous écoutez France Inter, le 19h, le 13h. Il y a un certain nombre de sujets qui sont traités au cours de la journée. Ces sujets-là, au bout d'un moment, disparaissent de l'actualité. Et nous, on entre dans le jeu, si je peux dire, à partir du moment où on a le sentiment qu'un sujet a disparu, avant même qu'on ait répondu à toutes les questions qu'il posait. Et à ce moment-là, on se dit, nous, on va prendre le temps d'aller creuser derrière ce sujet-là pour pouvoir tout vous exposer. Exemple tout bête, par exemple, il y a eu ces dernières années pas mal de sujets sur le logiciel Louvois qui avait dysfonctionné dans l'armée, qui avait des conséquences terribles et qui a coûté une fortune à l'État. Eh bien, on se souvient que dans Des paroles et des actes, le Premier ministre avait fait une déclaration en disant ce logiciel était une catastrophe. Bon, mais il y a un moment, on a quand même envie de mettre tout ça sur la table et de se dire pourquoi c'est une catastrophe? Qui a eu l'idée de concevoir ce logiciel? Comment il a été conçu? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à de tels bugs? Qui va être son successeur? Est-ce qu'on a fait en sorte que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas? Et là, on prend le temps effectivement d'aller creuser ce sujet. Donc, un, l'actualité. Deux, il y a ce qu'on appelle pompeusement les lanceurs d'alerte. D'une manière générale, les lanceurs d'alerte, ce sont des sources. C'est-à-dire, en gros, ce sont des gens qui viennent vous voir ou qui vous envoient des mails ou qui vous envoient des courriers et qui vous disent, voilà, on a découvert ça, tel type de pratique dans tel endroit. Tel... Et effectivement, il arrive que assez souvent que nos sources ou nos lanceurs d'alerte soient initiateurs de certaines de nos enquêtes. Et puis après, il y a ce que j'appellerais plus globalement l'air du temps. C'est-à-dire qu'au sein de notre équipe, on a des conversations, on discute, on partage des idées. Et il y a des idées qui viennent aussi par simple échange. Je vous donne un exemple. On a fait récemment une enquête sur les coulisses du naufrage du Parti Socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé après la présidentielle? Où il en est maintenant? Bon, ben ça, ce sont des questions toutes bêtes qu'on s'est posées au cours de conversations. Un an après l'élection, le parti qui était un parti dominant, qui se retrouve à 6% des suffrages, où est-ce qu'il en est? Donc on a envie d'aller creuser derrière ça. La fusion des régions, c'était pareil, hein, c'était 3 ans après la loi. Est-ce que la promesse, puisqu'on parlait de promesse tout à l'heure, a été tenue? Est-ce qu'effectivement la fusion des régions a été efficace? Et est-ce que ça a permis d'économiser de l'argent, puisque c'était une des promesses? La réponse était non. Ça a été la même chose aussi dans plusieurs enquêtes qu'on a fait sur la pédophilie dans l'Église. On l'a fait sur la base d'informations qu'on pouvait avoir. Mais on l'a fait aussi récemment, parce qu'on s'est dit comment se fait-il que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou ailleurs, la pédophilie dans l'Église soit un sujet majeur qui provoque un véritable traumatisme dans la société et de vraies décisions. Et pourquoi pas en France, où on en est encore à la chape de plomb et où visiblement on cherche à couvrir les choses et où la justice est très en retard par rapport à d'autres pays.
Et alors, est-ce que vous répondez à des commandes?
Alors, les commandes, on y arrive.
Ça, c'est...
Bien sûr,
et
on appelle l'Élysée, on demande à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il... Non, mais non. Alors, la réponse est non. De la même manière qu'on n'a aucune commande de notre propre hiérarchie. Je viens de vous donner la liste des critères qui pouvaient présider au lancement d'une enquête. En revanche, on a des propositions de collaboration. C'est le cas de ICIJ, qui est le consortium international des journalistes d'investigation. Et là, évidemment, quand vous avez une investigation type des Paradise Papers ou type, on vient d'en parler, des Implant Files, bah, c'est le consortium qui vous propose de vous associer à cette enquête. Vous n'êtes pas l'initiateur de l'enquête, mais là, vous décidez de participer à une enquête planétaire qui met en route des centaines de journalistes dans des dizaines de pays sur des sujets qui sont des sujets transversaux, mondiaux, d'intérêt public. Donc forcément, ces enquêtes-là, on a envie de s'y associer. Et là, effectivement, nous n'en sommes pas les initiateurs.
Et en ce qui concerne le droit de suite, quelle place lui accordez-vous au sein de votre cellule investigation?
Alors, on vient d'en faire un, puisque dans cette émission
en
même,
effet.
On a fait un droit de suite sur les Implant Files. Alors, vous êtes là. Emmanuel, j'allais dire, ce rendez-vous mensuel qu'on a introduit aussi dans cette émission, c'est aussi pour permettre aux auditeurs de faire remonter leurs critiques, mais aussi, de temps en temps, en répondant à ces critiques, de glisser quelques informations qui permettent de faire avancer le sujet ou de voir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. On l'a fait d'ailleurs récemment, notamment sur le coaching. Après, le droit de suite, c'est quelque chose qui se décline sur d'autres supports. Parlons de l'enquête qu'on a faite sur Lafarge, ici même, sur l'entreprise des ciments Lafarge en Syrie. Forcément, il y aura des développements, puisqu'il y a une information judiciaire, dans l'actualité. Et donc, ce sont aussi dans les journaux qu'on retrouvera naturellement des droits de suite de choses qu'on aura pu évoquer ici. Donc, les droits de suite, ils ne sont pas seulement dans Secret d'Info. Et puis, c'est vrai qu'on a envie aussi. On a peu d'émissions, on n'en a qu'une par semaine. On a envie aussi de vous apprendre des choses nouvelles.
Merci Jacques Monnat.
Merci Emmanuel. À bientôt.